France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h20. En finir avec les violences sexistes et sexuelles. C'est le titre d'un livre qui sort aujourd'hui. C'est écrit comme un manuel qui propose des outils, qui donne des solutions pour mieux détecter et lutter contre ce harcèlement, ces agressions qui existent partout, autour de nous, au travail, à la maison, dans la rue. Bonjour Caroline Dehaas.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice du collectif féministe Nous Toutes, créé il y a bientôt 3 ans. Alors c'est pas un énième livre de combat, de constat ou de témoignage. Non, justement, j'ai ma langue à fourcher parce que c'est un livre de combat. C'est presque un guide pratique. D'ailleurs, vous écrivez en exergue dans les premières pages, je peux t'aider. Ce que vous voulez délivrer, c'est un message optimiste?
Alors moi, en effet, je suis hyper optimiste sur l'avenir. J'ai le sentiment que notre société, elle a bougé énormément ces dernières années. Et là où je suis très optimiste, c'est que depuis le jour où j'ai été moi-même formée à détecter les violences, à comprendre les mécanismes des violences, connaître les numéros de téléphone, aider les victimes, en fait, ma vie a tout simplement changé. Et j'ai été capable, autour de moi, de détecter quand il y avait des violences, que ce soit au sein du couple, au travail, et de trouver des solutions pour agir. La première étape pour ça, et c'est le premier chapitre du livre, c'est de sortir du déni face aux violences. Vous savez, quand vous êtes en repas de famille ou à la machine à café, quand on y retournera bientôt, souvent on discute des violences et les gens ils disent « Non mais ça va, c'est pas l'Afghanistan ici, quoi.
Voilà,
c'est pas l'Afghanistan. » Et donc, avec ce sentiment que, globalement, ça va. Ben, en fait, ça va pas. Et la première étape, c'est d'abord de sortir de ce déni en connaissant les chiffres des violences. Il y a 2 chiffres que je donne souvent. Le premier, c'est qu'en France, au 21e siècle, 200 000 femmes sont victimes de violences au sein de leur couple. 200 000. Ça veut dire que 100% des personnes qui nous écoutent en ce moment connaissent une personne qui a subi des violences au sein du couple. C'est-à-dire que c'est massif. Et le deuxième chiffre, c'est que 32% des femmes, 32%, une sur trois, ont déjà connu du harcèlement, ont déjà subi du harcèlement sexuel au travail. Donc les violences, elles sont massives, elles nous concernent toutes et tous.
Oui, c'est ce que vous dites, il faut commencer par identifier le problème. La violence physique, elle est simple à constater, mais à partir de quand commence la violence au sens général? La violence, c'est quoi?
En fait, les violences sexistes et sexuelles, c'est un continuum d'actes qui peuvent aller de ce qu'on appelle l'agissement sexiste, c'est-à-dire un propos sexiste qui va vous mettre mal à l'aise, par exemple. Ça, c'est interdit. On le sait pas, mais en fait, au travail, on n'a pas le droit, par exemple, de tenir de propos sexistes comme on n'a pas le droit de tenir de propos racistes, homophobes, transphobes, par exemple. Et puis, ça peut aller jusqu'au viol et au féminicide. Alors évidemment, il n'y a pas de lien direct entre un agissement sexiste et un viol. C'est 2 choses totalement différentes. Mais ces violences, elles sont liées entre elles par ce qu'on appelle le continuum des violences. C'est-à-dire le fait qu'il y ait en France, comme dans tous les pays du monde, une grande tolérance vis-à-vis des agissements sexistes. Ça fait qu'on est aussi assez tolérant vis-à-vis des propos à connotation sexuelle, donc du harcèlement sexuel. Et puis, ça veut dire qu'on est en fait assez tolérant vis-à-vis des agressions sexuelles. Et puis, en fait, ça veut dire qu'on est aussi assez tolérant vis-à-vis du viol. Et donc, il y a un lien entre ces violences-là. Et pour lutter contre les violences, il faut lutter contre toutes les violences en même temps.
Pour repartir sur le premier maillon, les mots qui peuvent choquer, qui peuvent déranger, est-ce que ces mots peuvent être objectivement sexistes ou est-ce qu'il y a une part de subjectivité? Est-ce que ça dépend aussi de la personne qui le reçoit? On n'est pas tous équipés pareil, on n'est pas tous hiérarchiquement positionnés de la même façon. Est-ce qu'il y a une part de subjectivité aussi?
En fait, moi, quand je travaille sur la question des violences, je m'appuie sur la loi. Parce que la loi, c'est un outil très efficace qui permet d'identifier précisément si on est face à une violence ou pas. Par exemple, vous avez 2 collègues au travail qui parlent d'histoire de cul, qui racontent leur plan cul de la veille, ou leur histoire d'amour, ou sexuelle, ou je ne sais quoi. Et puis, ils sont très contents, c'est leur truc, ils parlent. Bon, c'est pas, enfin, ça me regarde pas. Enfin, moi, je veux bien avoir les détails croustillants, ça m'intéresse toujours, mais c'est pas mon problème. Bon. À partir du moment où il y a soit atteinte à la dignité, soit qu'on va créer par nos propos un environnement qui va être qualifié par la personne qui les reçoit, en effet, d'intimidant, d'hostile ou d'offensant, on est là dans des choses illégales. Et donc c'est très différent d'être dans un rapport d'égal à égal où on va discuter entre personnes consentantes et dans un rapport où on va mettre l'autre mal à l'aise.
Et ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'au-delà du constat, vous apportez des clés et vous nous expliquez comment réagir quand on en est soi-même victime. Et vous donnez un exemple, je pense que c'est arrivé à plein de gens, dans une entreprise justement, quelqu'un qui dit à une collègue « Bah alors Sandrine, t'as tes règles ou quoi ?» Comment on réagit? Il y a soit l'insulte, soit l'humiliation, et vous dites qu'on pourrait répondre « Bah et toi Jean-Michel, ta prostate, ça va comment ?» Et vous dites « Bah non, il faut pas réagir comme ça. »
Non, on n'a pas le droit d'insulter les gens et on n'a pas le droit d'atteindre à leur dignité. Donc parler à Jean-Michel de sa prostate lorsqu'il nous parle de nos règles, en fait, ça peut atteindre à sa dignité, il ne faut pas faire ça. Alors attention, on a le droit d'avoir envie de le faire,
oui,
on a le droit d'avoir envie de le faire, mais on n'a pas le droit de le faire. Ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est juste rappeler la loi. En fait, Jean-Michel, ce que tu nous dis là, en fait, c'est, t'as pas le droit, c'est interdit. En général, Jean-Michel, à ce moment-là, il va dire, non mais ça va, on peut plus rigoler. Bah, reprenons le code du travail. On va regarder la définition de l'agissement sexiste. Donc, l'agissement sexiste, je reprends la définition, non. Ah bah, en fait, Jean-Michel, je suis désolée. En fait, c'est pas expliqué dans la loi que si c'est drôle, ça passe. En fait, que ce soit drôle ou pas, il n'y a pas de rapport. Tu n'as pas le droit de tenir de propos sexistes.
Donc c'est ça, il faut reprogrammer son cerveau et être au courant de ce qui existe autour de nous, des textes de loi.
Il faut s'informer et se former. Avec le collectif Nous Toutes, on a formé plus de 100 000 personnes depuis le premier confinement sur les violences sexistes et sexuelles. Et on voit bien qu'en se formant, on est outillé. Je vous prends un autre exemple, ce sont les mécanismes des violences. Moi, ça a vraiment changé radicalement ma vie, de maîtriser ces mécanismes. Ces mécanismes, c'est quoi ? C'est des choses qu'on retrouve dans quasiment toutes les histoires de violence. Il y en a notamment 4 qui sont très importants. Le premier, c'est l'isolement de la victime, quand vous avez une collègue qui vient plus déjeuner, quand vous avez une cousine qui ne donne plus de nouvelles. Le deuxième, c'est la dévalorisation, c'est-à-dire qu'une personne qui va avoir tendance à se dévaloriser régulièrement, bah peut-être que ça veut dire qu'elle est victime de violence, que quelqu'un lui la dévalorise. Le troisième, c'est l'inversion de la culpabilité, quand vous avez une copine qui dit non, mais ça se passe pas bien avec mon mec, mais en même temps, c'est vrai que je suis pas facile à vivre, ou en même temps, c'est vrai que je suis pas très soigneuse. En fait, c'est qu'il y a un problème. C'est pas normal qu'une personne qui est victime de violence se sente coupable. Et le dernier, qui est le plus important pour moi, c'est la peur. Il n'est pas normal d'avoir peur de quelqu'un au travail ou à la maison. C'est un signal d'alerte. Non pas que vous avez un problème si vous avez peur, mais que l'autre a un comportement qui dysfonctionne.
Donc ça, c'est pour détecter. Et après, on fait comment pour agir ? Comment on peut trouver des réponses, des mots qui peuvent apaiser, qui peuvent aider ? Comment on fait ?
Quand quelqu'un vient nous confier des violences, notre première réaction en général, c'est d'être dans l'action. Attends, on va trouver une solution, je vais t'aider, etc. Et on oublie souvent de dire les mots essentiels. Ces mots-là, moi je les ai appris par cœur, parce que moi aussi, quand je reçois des messages tous les jours sur les réseaux sociaux, je suis victime et je me mets tout de suite en mode pilote automatique, allez, il faut agir. Bon. Et j'oublie de dire les mots. Les mots, c'est cela. Je te crois, tu as bien fait de venir me voir, c'est super courageux, je te remercie de ta confiance. Ce que tu me racontes là, en fait, c'est grave et c'est interdit par la loi, et je peux t'aider si tu le souhaites. Et comment on aide ? On donne les numéros de téléphone, le 3919. Pour les enfants en danger, ça va être le 119. Pour les personnes malentendantes, ça va être le SMS 114. On peut envoyer un SMS au 114. Et donc, on donne le numéro de téléphone et on donne les noms des associations, comme par exemple les CIDFF, les Centres d'information des droits des femmes et des familles, qui existent dans tous les départements.
Donc, on comprend à travers votre livre qu'il faut se retrousser les manches, apprendre 2-3 mots-clés, apprendre quelques textes de loi pour pouvoir agir. Et en dernier recours, on peut aussi solliciter votre collectif, Nous Toutes, qui nous apporte également plein de réponses. En finir avec les violences sexistes et sexuelles, c'est le titre de votre ouvrage qui paraît aujourd'hui chez Robert Laffont. Merci beaucoup Caroline Dehaas. France Inter.